Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Radio Syllabe. Vous êtes sur Gérer cracher sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux faits et objets de littérature. Et ce soir, je suis toute seule. Enfin, il n'y a personne au studio, quoi. Mais je vous rassure, je vais pas vous faire un monologue pendant toute l'émission. D'ailleurs, je vais tout de suite laisser la parole à Agathe, qui nous a concocté le flash info littéraire de la semaine.
Burning After Writing, c'est le titre de ce nouveau best-seller en tête des ventes depuis 4 semaines. Le livre est pourtant sorti il y a 7 ans et était passé inaperçu à l'époque. C'est une influenceuse de TikTok qui le sort des cartons en 2019. Aussitôt, la machine s'emballe jusqu'à arriver en France ce mois-ci. Commerce pourtant essentiel mais obligé de fermer, les librairies au sein des grandes surfaces avaient baissé le store depuis début mars. Un décret signé vendredi les autorise à rouvrir. Les choses se précisent pour l'étonnant voyageur qui a dévoilé jeudi les modalités du festival. Il aura lieu en ligne du 20 au 24 mai. 50 auteurs sont invités pour cette 30e édition un peu spéciale après la mort de son créateur Michel Lebris. Il fabriquait des livres numériques pirates. Les 12 personnes impliquées ont comparu jeudi devant le tribunal correctionnel. Au total, 2000 contrefaçons avaient été réalisées. Enfin, l'éditeur Gallimard a annoncé mardi que J.K. Rowling publiera un roman jeunesse prochainement. Le livre sortirait le 12 octobre dans 20 langues différentes. Il s'appellera The Christmas Pig.
Merci Agathe pour ce flash info. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, je vais vous amener à la rencontre de deux personnes très inspirantes qui sont Pauline Gonzalo et Michel Vézina et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu par hasard au marché du livre de Becherel il n'y a pas si longtemps. J'ai été attirée par un stand un peu à part. Des bouquins faits à la main, des t-shirts, des affiches, des livres collectifs, de poésie, de restitution d'ateliers d'écriture. Dans la lignée des émissions précédentes sur les éditions du coin, eh bien je vous propose de découvrir celle du Buvard, indépendante, punk et faite maison, un couple franco-québécois installé à Liffré, et que j'ai eu le plaisir d'interviewer chez elle autour d'un café. Et vous reconnaîtrez sûrement aussi la voix de Cécile, qui était là pour m'accompagner dans cette rencontre et poser des questions lorsque je n'arrivais pas à formuler les miennes. Donc voilà, je vous laisse embarquer avec nous pour à peu près une heure de discussion autour des livres et bien d'autres choses.
Je peux le faire en premier comme ça tu copieras ?
Non, mais je connais la bonne réponse.
Donc je m'appelle Michel Vézina, je suis auteur, éditeur, un peu musicien, un peu scénariste. J'ai, comme mon accent vous le dit, je viens d'un autre pays. J'ai été journaliste littéraire, j'ai fait à peu près tous les métiers du monde du livre, j'ai été libraire aussi. Et le Buvard, c'est ma deuxième maison d'édition, j'en ai fondé une au Québec en 2007, j'ai arrêté en 2013, et puis voilà, donc là maintenant j'habite en Bretagne, et puis je fais de l'édition avec mon épouse.
Donc moi je suis l'épouse, je suis Pauline Gonzalo. Mon parcours, j'ai fait des études en sociologie, j'ai un doctorat en sociologie et j'ai rejoint le Buvard en 2018. Entre-temps, je suis devenue dessinatrice, musicienne aussi, voilà, et puis c'est dans l'édition que je m'éclate le plus.
Ok.
Vas-y, alors le Buvard, c'est une maison d'édition qui est très jeune, donc elle a un peu plus de 2 ans. Et qui a commencé par fonder une collection, la collection In Situ, qui consiste à se déplacer de lieu en lieu et de faire des livres donc sur place avec des groupes de participants qu'on ne connaît pas avant d'arriver.
La plus grande quantité de livres qu'on a fait dans In Situ, c'est dans des ateliers d'écriture. Donc pendant les 3 premiers jours, on fait écrire le groupe, le collectif, qui est soit des étudiants, soit des membres d'une asso, soit carrément, c'est arrivé à 2 reprises que c'était des auteurs invités.
Oui.
C'est arrivé sur Ça goûte le ciel et c'est arrivé sur Chaud l'été, où on invitait des auteurs. Il y a un deuxième cas, Chaud l'été, qui est un de nos préférés, en fait, de chez In Situ, où on avait une résidence dans un petit village au Québec qui s'appelle le Bic. On a invité 5 poètes avec nous. On était 7 en tout, je pense. Puis là, ce qu'on leur a dit, c'est le défi qu'on a lancé, c'est de faire un bouquin qui soit une consignation du réel. Donc, on leur donne à des heures très précises, à tous les jours, on leur envoyait des SMS en disant « Vous lâchez tout et vous écrivez ce qu'il y a devant vous. » Et donc, on a monté le livre, les chapitres du livre, c'est des heures, c'est des dates et des heures. Alors, tu as tout le monde qui écrit un petit texte ou un dessin sur ces dates ou ces heures-là. T'as. Et ça fait un beau petit bouquin. C'est un de nos préférés. Quoi. C'est un...
Ouais. Et ce principe-là d'écrire à des heures précises, on l'a réutilisé à plusieurs reprises, notamment à Valenciennes, à la fac de Valenciennes, la fac d'art, et l'école des beaux-arts aussi de Valenciennes.
Le premier truc qu'on a à faire avec eux, quand on reçoit le texte, les premiers textes, c'est vraiment ensemble essayer de déterminer la volonté de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut faire, dans quel créneau poétique il se situe, et d'essayer de leur donner des guides et des indications qui vont les faire s'améliorer, qui vont faire en sorte que leurs textes vont être plus forts, plus cohérents. Et on repère énormément de tics d'écriture qu'on essaie de, j'allais dire de briser, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais de libérer. Quoi. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont, en France, beaucoup, l'histoire de la poésie est tellement lourde et inscrite dans votre parcours, quoi, dans les parcours scolaires. Mais il y a énormément de gens qui essaient d'écrire en rime, alors que nous, on est plus sur une poésie qui est très contemporaine, qui est très libre. Donc, on leur dit, vous n'êtes pas obligés de faire des rimes, vous n'êtes pas obligés de faire des vers mesurés. Exprimez ce que vous voyez, ce que vous... En fait, l'idée, le parti pris poétique, et Pauline pourrait peut-être être mieux placée que moi pour l'expliquer, mais c'est la question du sensible et du réel. C'est de l'expression. Vas-y, je te laisse aller là-dessus.
Mais moi, ça m'est venu du dessin. C'est pour ça que c'était intéressant que tu commences l'entrevue par nos parcours. C'est que, donc moi, je suis docteur en sociologie, donc je suis pas arrivée là par hasard. C'est parce que je suis très sensible à l'humain et à l'interaction de l'humain avec son environnement et puis des humains entre eux, en fait. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, le fait que je sois dessinatrice, je me suis demandé comment je devais exprimer ça. Parce qu'il y a mille et une façons de faire du dessin et de représenter notre environnement et donc le réel, ou nos sensations qui sont elles aussi très réelles. Mais pour en arriver à ma pratique de dessin actuelle, je me suis auto-formée et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait dissoudre le réel, dire qu'il n'existait pas et que notre seul rapport à notre environnement, qu'il soit humain ou physique, c'est les émotions qu'on en a. Et c'est ça qu'on doit exprimer à travers l'art. Donc ça, c'est mon...
C'est les
deux gros piliers, en fait. Le fait que le réel, on peut complètement le capter avec des chiffres, avec des entrevues et tout ça. Et en même temps, le seul réel qui nous atteint, c'est celui qui nous touche. Et donc ça, c'est ce qui a amené donc, ma pratique de dessin. Et c'est aussi ce principe de consignation du réel sensible qui est au cœur des éditions du Buveur.
Le parti pris général de l'édition, c'est du coup plus des choses documentaires et...
Pas nécessairement. Là, par exemple, on a développé une deuxième collection qui a été Tracé plat, qui, elle, est une collection consacrée aux documentaires et puis... un côté très très brut des choses. On a sorti pour le moment que deux titres. Le bon plan, avec un T à la fin, qui est un recueil d'expériences et de savoirs à propos du cannabis, parce qu'on en a des considérations qui sont très très vagues et floues dans la vie quotidienne, alors qu'en fait on a des savoirs qui sont très précis au contraire. Et donc ça nous paraissait intéressant de faire ce livre-là. Et ensuite, le deuxième, il s'appelle Alma Mater Dolorosa. Et il a été fait par des salariés de l'université de Paris 8 et Rennes 2. Donc autant des professeurs que des personnels non enseignants. Il y a, 24, je crois, participants de tous horizons qui ont ce seul point commun de passer au moins 35 heures par semaine dans l'université ou en lien avec l'université. Et qui dresse un portrait de l'intérieur de l'université et qui dénonce toutes ses dérives.
C'est une forme de manifeste pour l'université telle qu'elle devrait être. Donc contre l'université telle qu'elle est en train de devenir. Avec toute la marchandisation des savoirs, etc. Donc, les salariés, profs, chargés de cours, maîtres de conf, employés des rues, étudiants, s'expriment dans ce livre-là pour nous décrire comment on est en train de perdre en France l'université telle qu'elle a été rêvée ou espérée par... je fais un geste de la main, là, depuis 4-5 siècles que l'université existe, et puis il y a un idéal universitaire en France qui est en train de se perdre, et ce livre-là est un manifeste qui le... Ça donne des bons coups, de très bons coups.
C'était Our Legacy de While She Sleeps, le choix musical de nos invités, qui vont maintenant nous expliquer comment ils ont rencontré les différents auteurs et autrices publiés chez eux.
Il n'y a pas un livre qui fait pareil. Dans le cas du Bon Plan, c'était au Québec. Il y avait le cannabis a été légalisé en octobre 2018.
Ouais.
Et on a un pote, dans une petite ville dans l'est du Québec, qui est un militant... avec un grand M. Donc, il a longtemps milité pour l'écologie. Et depuis quelques années, il militait pour la légalisation du cannabis. Et quand le cannabis a été légalisé, il organisait un festival qui s'appelle le Festival du Bon Plan, où il faisait venir à la fois des usagers, des groupes de reggae, des scientifiques, des biologistes moléculaires qui s'intéresser aux molécules
THC. Et des gens qui se sont soignés avec le cannabis.
C'est ça, et des gens qui se sont soignés. Donc nous, il nous a invités, il a au départ invité notre groupe, on a un duo de musique aussi qui s'appelle Ouida, et il a invité Ouida à venir faire un spectacle à son festival. Et quand on a vu la liste des invités, puis ce qui allait s'y passer, on a dit, gratte, on pourrait peut-être faire un bouquin avec ces gens-là. Donc, on a envoyé un courriel à Michael, donc l'organisateur. On lui a dit, qu'est-ce que tu dirais de nous mettre en contact avec tes conférenciers? On aimerait bien faire un petit bouquin là-dessus. Ça s'est fait, mais comme un couteau chaud dans du beurre mou. Et on a sorti le bouquin. Donc, on s'est rendu au festival et on a sorti le bouquin au festival. La première journée du festival, on a mis le bouquin en vente. Et ça s'est super bien passé. Le deuxième, Alma Mater de Lorosa, c'est Becherel. C'est-à-dire qu'on était là avec notre stand à Becherel, parce qu'on pourra en reparler après notre mise en marché, si tu veux. Becherel fait partie de notre manière de faire connaître nos bouquins. On en a la preuve ici, c'est là que tu nous as rencontrés. Et on était à Becherel, et il y a d'abord une femme qui vient nous voir. Elle garde les bouquins un peu, puis elle avait fait son master en littérature québécoise. Donc, puis à cette époque-là, on était surtout librairie ambulante spécialisée en littérature québécoise. 10 minutes après, elle arrive avec son mari puis leur fille. Et le mari en question nous dit « Ah oui, putain, c'est joli, vos bouquins. » Et il nous dit qu'il est prof en socio à Paris 8 et qu'il a des manuscrits pour nous. Fait qu'on dit « Ben, envoie, on verra bien. » Il nous envoie 5 manuscrits, c'est ça, 4? Et ce Alma Mater de Lorosa-là, qui en fait est signé par le collectif Ousekine. Du nom du Malik Ousekine qui a été tué lors de manif étudiante en 86 par la police. Donc, c'est un hommage un peu à ce jeune homme-là. Et c'était déjà préparé. Fabien, donc le prof en question, nous a envoyé le manuscrit. On avait le truc. Il y a eu des petits ajustements à faire. On lui a commandé un texte d'introduction pour expliquer le contexte, pour sortir ça un peu du monde de l'université. Mais le manuscrit était livré presque clé en main. On avait déjà tous les textes sous la main. Il a fallu corriger, évidemment, mettre en page. Mais c'est pas nous qui avons commandé le livre. Il nous est arrivé par quelqu'un qui nous a trouvé au marché de Becherel. Dans le cas des romans, parce qu'il y a une troisième collection qu'on a démarré l'automne dernier qui s'appelle Second Souffle. Et cette collection-là, c'est vraiment une collection littéraire. Il y a deux... Comme je disais tout à l'heure, on a un duo de musique. On fait des spectacles littéraires ensemble, spectacles littéraires et musicaux et vidéographiques.
Oui.
Et donc, on a édité les textes de ces deux spectacles-là qu'on a publiés dans Second Souffle. Et l'automne dernier, on a publié deux romans, tous les deux des premiers romans, tous les deux d'auteurs québécois. Et dans les deux cas, c'est des gens que moi, je connaissais au préalable. La première, Maud Leduc Préfontaine, on était dans une soirée au Bic, encore une fois... On est là avec notre petite table, une table à peu près, je sais pas, d'un mètre sur un mètre, avec nos piles de bouquins, puis on vend des bouquins. On gagne notre vie comme ça, donc chaque fois qu'on peut, on vend des bouquins. Hein. Et il y a Maude que je connaissais, que j'avais connue une vingtaine d'années avant, qui passe, qui regarde des bouquins, elle prend quelques bouquins, puis elle nous dit « Ah, mais j'ai un manuscrit de roman. » On dit « Ben, envoie. » On a beaucoup, beaucoup travaillé avec Maude, on a travaillé plus d'un an avec elle sur son texte.
Parce que c'était notre tout premier roman. Et moi, j'ai jamais été éditrice avant, donc je devais apprendre comment ça se passait. Et comme on est deux, on en profite pour avoir un double regard, en fait, sur le travail. C'est pas du tout... on aurait pu avoir une posture capitaliste, en fait, et puis dire, bah, on se divise les romans, chacun le sien, et puis chacun travaille avec l'auteur directement. Sauf que nous, on a dit, bah, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. On est deux, ça prendra plus de temps peut-être, mais on va tous les deux travailler sur le texte, l'un après l'autre. Et surtout, en parallèle, il y a un autre manuscrit qui nous a été proposé et qu'on a retenu, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on nous a proposé puis qu'on n'a pas retenu aussi.
Ouais.
Ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est Vianney Galland qui nous a proposé un manuscrit qui s'appelle « La musique des ombres » et qu'on a fait donc en parallèle.
Et c'est rigolo parce que Vianney Galland, c'est son premier roman aussi. Et c'est un jeune auteur de 70 ans qui a écrit beaucoup, beaucoup de poésie dans sa vie. C'est un conteur, c'est un mec qui a fait beaucoup de... Mais qui a aussi passé sa vie à écrire dans les cafés. Et là, il nous a fait un roman, en fait, dont le personnage principal est un écrivain qui écrit dans les cafés. Et c'est beaucoup référencé, il y a beaucoup d'auto-références, mais c'est aussi référencé de manière littéraire Il y a beaucoup d'éléments de rapprochement entre le mouvement surréalisme et lui. Il se balade dans un paquet de formes littéraires connues. Et ça donne un petit bouquin qui est vraiment hyper intéressant. Nous, en tout cas, on a vraiment flashé là-dessus. Et comme Pauline disait, on n'édite pas nécessairement tous les livres qui nous sont envoyés. Une des grandes forces du Buvard, ou de notre manière de fonctionner, en tout cas, on n'est pas tenu de faire un certain nombre de livres à tous les ans ou à toutes les saisons littéraires. Si il s'avère qu'on n'a pas de livres une certaine saison, ben on ne fera pas de livres. On n'ira pas chercher des bouquins juste pour faire des bouquins.
Le Buvard, c'est une maison d'édition indépendante qui a pour spécificité de faire ses livres à la main, de A à Z. Donc à partir du moment où la collaboration avec les auteurs est terminée dans un premier temps, c'est-à-dire que le texte est terminé, qu'on n'y touche plus, il n'y a plus qu'à l'imprimer, on s'occupe de tout, on prend tout en main, c'est-à-dire qu'on l'imprime dans nos ateliers à la maison, sur une imprimante laser. Ensuite, on rassemble les feuilles, on les massicote, parce qu'on imprime deux bouquins en parallèle sur les pages. Ensuite, on le passe à la perceuse à colonne pour percer les trous qui vont nous servir à relier à la main avec du fil de lin pour créer les livres.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, une image que j'aime beaucoup donner, la reliure qu'on utilise, c'est une technique de reliure qui est dite reliure japonaise, qui existe depuis à peu près 2500 ans. Et j'aime bien, moi, l'idée d'imprimer des livres en laser et de les coudre en reliure japonaise, une méthode très, très ancienne. Il y a quelque chose là-dedans qui couvre l'espace-temps que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et une des particularités de cette manière de faire-là, c'est aussi qu'on ne surproduit pas. Le monde du livre a tendance à tenter d'évaluer... on pourrait donner des exemples d'hyper gros vendeurs, mais j'aime mieux garder sur des exemples plus réduits, plus proches de nous. Mais les maisons d'édition, lorsqu'ils font un bouquin, avec leurs diffuseurs, distributeurs, ils vont déterminer un tirage. Et ça, c'est vraiment du gros pif, d'essayer de savoir d'avance c'est quoi la mise en place. Ce livre-là risque de se vendre à combien d'exemplaires? Or, en France, il y a plus de 1200 librairies. Et si on veut, si par exemple un éditeur veut que son livre soit présent dans toutes les librairies, des piles partout, ben, il faut qu'il fasse un tirage d'au moins 10 000 exemplaires pour fournir toutes ces librairies-là. S'il s'avère que le livre ne fonctionne pas, s'ils mettent un livre en présentoir et puis qu'au bout de deux semaines, il n'y en a pas un vendu, ils sortent le livre du présentoir pour le mettre en étagère et puis ils sont tout repassés. Donc, si les livres ne se vendent pas autant que l'éditeur aurait souhaité, mais au bout de trois mois, tous ces livres-là reviennent chez le distributeur, et là, ben, ils sont détruits. Or, nous, ce système-là, qui est très, très industriel, très capitaliste, il nous agace, il nous énerve. On n'a pas envie de tomber là-dedans, on n'a pas envie de faire des bouquins qui vont se retrouver à la récup ou au tri dans six mois. T'sais. Donc, pour l'instant, on fonctionne vraiment sur des très petits tirages initiaux. On tire entre 100 et 200 exemplaires au départ, et on réimprime, comme on fait tout nous-mêmes, on peut réimprimer une très petite quantité de bouquins lorsqu'on en manque.
C'est que on s'occupe de la mise en marché aussi des livres. Mm-hmm. Jusque-là, on a toujours vendu nos livres sur des marchés comme à Becherel ou dans des bars, ou dans les festivals, ou enfin un peu partout en fait. Et donc, chaque fois qu'une personne achetait un bouquin, on l'avait vu en vrai. Et ça, c'était une sacrée richesse. En novembre, ce qui a changé, c'est qu'on a refait complètement le site internet, donc lebuvard.ca, et pour pouvoir faire de la vente en ligne. Et là, on réfléchit à être diffusé et distribué, mais on a des grosses conditions qui sont notamment... parce que ça nous tient vraiment beaucoup à cœur de ne pas surproduire de livres. Et donc, nous, on tient à continuer de les faire à la main. Ça, c'est la signature du Buvard, parmi d'autres, mais c'est important pour nous. Et donc, pas faire des milliers d'exemplaires pour que ça atteigne quelques poignées de personnes.
Non, c'est vraiment un principe qui nous tient à cœur. Et puis, L'autre principe qui, je pense, qui je sais pas si ça nous, si ça nous, je sais pas si c'est une spécificité du buveur, vraiment, on veut essayer de trouver des manières de rejoindre d'autres publics. Je m'explique. Oui, il y a la lecture. Oui, il y a le bouquin que tu prends dans tes mains, que tu parcours, que tu lis. Mais la poésie, c'est pas qu'un bouquin. Ça peut être aussi juste une phrase. Et en disant ça, je me fais juste me rappeler tout le mouvement situationniste en mai 68 où c'était des tags.
Oui, hein? Puis il y a une autre influence, c'est que on est tous les deux super fans de Basquiat.
Voilà.
Qui a commencé sa carrière en signant des phrases poétiques sur les murs. Donc il y a un côté très urbain à ce qu'on fait, qui est inspiré d'une espèce d'immédiateté, de trouver de la poésie partout. Et on s'est dit que plutôt qu'aller taguer des murs avec des phrases du buvard, on allait faire des t-shirts
et des affiches.
Et donc les affiches, elles sont imprimées en laser, mais par contre les t-shirts, ils sont sérigraphiés. Et voilà, donc là, on va avoir une nouvelle production là, très très bientôt, dans les jours qui viennent, et il nous tarde beaucoup.
Ouais, on va sortir trois t-shirts. Il y en a un qu'on a fait le printemps dernier, qui est épuisé, qu'on va refaire, qui est une phrase qui est issue de nos spectacles. La phrase dit « À la mémoire de ce qui n'existe pas encore ». Donc ça, on va faire un t-shirt avec le texte imprimé sur le t-shirt. Il y a une phrase qui va être sortie d'un roman qu'on a fait.
De Maude,
Le Duc Préfontaine. La phrase, c'est attendre, c'est mourir un peu, c'est ça?
Ça fait mourir aussi.
Attendre, ça fait mourir aussi. Et puis, il y a un troisième t-shirt qui est tiré d'un des recueils de poésie qu'on sort le mois prochain. Je me souviens plus de la phrase.
Personne ne hante le silence, lui seul habite.
Donc, nous, notre manière de voir ces t-shirts-là et ces affiches-là, c'est aussi pour affirmer une présence poétique dans la vie de tous les jours. La poésie, c'est pas, et là je souligne mon pas, c'est pas un truc d'élite. L'institution en a fait un truc d'élite. Mais au cœur de la poésie, c'est la vie. C'est la façon de reproduire, pas de reproduire, mais de décrire le senti qu'on peut avoir sur la vie. Et dans toute l'histoire de la poésie, même les poètes qui aujourd'hui sont placés dans des belles étagères, des belles cases par l'élite, à leur époque, c'était souvent des vilains qui avaient vraiment une vie... En disant ça, je pense à Verlaine et à Rimbaud. Rimbaud, c'était quand même un trafiquant d'armes, là. Bon, c'était quand même pas monsieur de salon, tu vois. C'était quelqu'un qui avec Verlaine, ils se sont tirés dessus au pistolet quand même, tu vois. C'était pas des enfants de cœur. François Villon, qui est un des premiers grands poètes de l'histoire de la poésie française. François Villon, il a passé la moitié de sa vie en tôle. Hein.
Puis même, certains textes de Baudelaire, je pense qu'à son époque, ils devaient paraître hyper trash.
Ah ben oui, c'est clair. Donc, nous, ce qui nous intéresse en poésie, c'est cette poésie-là qui n'est pas nécessairement trash ou d'être destructive, mais qui pose un regard sensible sur le monde dans lequel on vit. Et ce regard sensible-là, il n'a pas à passer que par des bouquins. Il peut aussi passer sur une affiche que tu mets dans ton salon ou passer sur un t-shirt que tu portes le matin et qui va être lu par tout le monde que tu vas croiser dans la journée. Pardon.
Mais c'est aussi pour ça que vous faites des spectacles, j'imagine, pour donner cet autre accès dans l'immédiateté. Il y avait un côté très multimédia à ce que vous proposez dans votre spectacle. Donc j'imagine que ça passe aussi par cette démarche-là, en fait.
Oui.
Ouais, c'est exactement ça. On a fait deux spectacles avec Ouida, donc notre duo. Le premier s'appelle La Brèche et le deuxième Mémoire amère. Le premier, c'est vraiment un gros coup de gueule sur la société actuelle. Donc là, on a vraiment pointé tout ce qui nous dérangeait et on en a fait quelque chose de très sombre. Moi, ma musique de référence, c'est plutôt le métal et le métal atmosphérique, le métal industriel, tout ça. Michel, comme il le disait tout à l'heure, c'est plus le punk.
Et l'industriel aussi.
Et donc, c'était assez rageux. À ce moment-là, on n'avait pas encore la vidéo. Il y avait Michel au micro qui lisait des textes et puis moi, à la guitare. C'est tout. Donc il y a vraiment ce côté très très brut, donc hérité du punk et du metal. Et le deuxième, il est beaucoup plus tribal. en fait. C'est comme si, ça y est, on a craché tout notre venin, on peut passer à autre chose. Et Mémoire amère, il questionne la mémoire dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Donc la mémoire individuelle, la mémoire collective, la mémoire du temps, la mémoire du futur, qui est en fait comment est-ce qu'on anticipe d'un point de vue cérébral ce qui va se passer, et dans ce cas en fait on le préconstruit et on se prépare en fait à quelque chose qui n'existe pas. J'essaye de résumer.
Non, mais l'exemple qu'on pourrait donner pour ça, c'est un exemple qui est très biblique, mais dans la Bible il y a l'Apocalypse, hein, c'est clair selon les chrétiens qu'un jour Jésus va revenir et puis ça va être l'Apocalypse. Et donc quand tu regardes la production de science-fiction du cinéma américain, par exemple, ben c'est toujours la fin du monde. Et c'est toujours, on part sur une autre planète, on vit sous terre. Tout est construit, cette espèce de mémoire du futur est construite en fonction d'une fin catastrophique et d'un espoir de nouvelle vie ailleurs. Alors, nous, ce qu'on essaie de dire aussi là-dedans, c'est que non, il n'y a rien d'autre que ça aussi maintenant, là. Donc, il faut vraiment s'arranger pour que ça soit possible, tout ça. Donc, d'où notre rapport à l'écologie, parce qu'on parlait de notre manière de faire des livres tout à l'heure aussi. On n'a pas mentionné le fait que, dans le monde du livre, ceux qui font le plus de fric, c'est les transporteurs, hein? C'est l'industrie du pétrole. Les bouquins sont trimballés de l'imprimerie au distributeur, du distributeur au libraire, du libraire au distributeur, du distributeur à la papeterie qui refait du papier avec les bouquins. C'est les camionneurs... Ouais, l'industrie du...
C'est pas les camionneurs qui s'en mettent plein les poches.
Non, mais c'est l'industrie pétrolière qui s'en met plein les poches, et chimique, parce que le livre qui est détruit pour en refaire du papier, ça se fait pas avec de l'eau de source. Hein. C'est de la Javel et de la Javel et de l'acide. Bon, nous, on essaie, même si les livres qu'on fait sont faits à partir d'arbres qui ont été coupés, oui. Mais on essaie qu'il n'y en ait pas trop de gaspillés, quand même. Donc, c'est toute une conscience du monde dans lequel on est et de tenter de rendre ce monde-là le plus vivable possible. Donc, on pense sérieusement que la musique, la poésie, les arts permettent d'envisager le monde de manière un peu plus agréable. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget all of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring, but sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are dumb. Stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask our new, it was madness.
coming over here to get rich is a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids and fucked their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up?
C'était Europe is Lost de Kate Tempest. Vous écoutez toujours J'irai cracher sur vos ondes et on va maintenant voyager un peu.
Au départ, le Buvard, c'est une librairie ambulante spécialisée en littérature québécoise.
Et qu'est-ce que c'est une librairie ambulante d'ailleurs ?
Dans un camion. Dans un ouais. Camion rempli de bouquins qui se déplace de village en village.
C'est comme un food truck, mais avec des livres.
Un book truck.
Un book truck.
Et en gros, j'avais fondé ça, moi, au Québec, parce qu'il y a, ben, comme, peut-être pas comme en France, mais au Québec, il y a un gros, gros problème d'accès aux livres en milieu rural. Les distances sont beaucoup plus grandes au Québec et les villes sont beaucoup moins grandes. Il y a 10 fois moins de population au Québec qu'en France sur un territoire qui est 6 fois plus grand. Donc, c'est très, très difficile de faire vivre une librairie au Québec dans les petites villes, les petits villages. Ma ville natale, qui a 50 000 de population, ben, il y a 2 librairies. Donc, dès que tu sors de cette ville-là, ben, il n'y en a plus. Donc, les gens qui veulent acheter des bouquins, ils ont souvent beaucoup de kilomètres à faire. Donc, moi, je m'étais dit... On va se promener de village en village avec un camion rempli de bouquins. Comme ça, les gens pourront acheter des livres sans avoir à faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour se rendre à la librairie. Ça a bien marché au début. Le problème qu'il y a au Québec, c'est le climat. Donc, l'hiver, c'était pas possible de se balader avec un camion rempli de livres quand il fait moins 20, moins 25. Et là, du coup, avec mon premier associé, on a monté une librairie en dur. Et là, c'est parti... Je ne sais pas comment dire. Elle est partie en coquille. et mon associé est parti du projet. Mais là, je me suis effectivement retrouvé tout seul. Et c'est là que Pauline est arrivée. J'avais encore la librairie en dur dans un petit village au Québec. Et puis, ça ne marchait pas du tout. J'étais en train de me ruiner avec ce projet-là. Et quand il a été question de... Il a été vite question, la question s'est posée très rapidement de savoir où on vit.
En fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que donc Michel avait cette librairie ambulante au Québec, 6 mois par an,
ouais.
Et 6 mois par an en France. Donc ce qui s'est fait au début, comme moi j'avais pas d'emploi, c'est que je rejoins Michel dans sa vie en fait.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'en parallèle, on a développé les éditions du Buvard tout en étant libraire. Ouais. Ambulant. Donc en France et au Québec, c'est pour ça qu'on a beaucoup de connaissances au Québec et en France, c'est qu'on a fait le tour de France, on a fait le tour du Québec plusieurs fois. Et les premières saisons, ben, on a fait l'alternance.
Ouais,
donc on est allé.
Gros, quand ça roule pas au Québec, ça roule en France.
Ben voilà,
ouais. C'était ça au début. C'était ça au début. Et avec le développement des éditions du Buvard, on a laissé tomber la librairie québécoise. Et puis on a décidé de s'installer pour pouvoir produire les bouquins. Ben voilà, il nous faut un local de travail, tout simplement. Quoi. On ne peut pas faire ça dans un camion.
Vivre dans un camion tout le temps non plus.
Non, puis moi j'en pouvais plus.
Ouais.
J'en avais vraiment marre.
Et puis tous les deux, on aimait beaucoup la Bretagne. On a fait une tournée en Bretagne ensemble en 2018.
Ouais.
Fin 2018. Et ça a été vite, ça faisait même pas 24 heures qu'on était en Bretagne. On s'est dit, bon, ok, c'est ici.
Autre chose, mais c'était une question qui me venait tout à l'heure, c'était par rapport à la littérature québécoise en fait. Est-ce que ça aurait un sens de vous demander comment vous la présenteriez ou quelles seraient les différences un peu avec la littérature française, où tout à l'heure tu parlais de la poésie qui en France était, enfin, avait un héritage très...
Moi je pense que il y a deux choses qui sont extrêmement paradoxales et contradictoires dans ce que je vais dire là, mais j'assume le paradoxe et la contradiction. Là, il faudrait que je raconte toute l'histoire du Québec pour bien comprendre ce que je veux dire là, mais j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, ça va être trop long. Mais la littérature québécoise est très, très jeune. Le premier roman et le premier recueil de poésie québécois, donc écrit au Québec par des gens qui sont nés là-bas, on parle de 1894 et de 1896. Avant ça, c'est la même tradition littéraire qu'en France. Il n'y a pas de différence, il y a pas de, c'est les mêmes titres, les mêmes auteurs qui sont les enseignés à l'école. Et cette littérature québécoise-là, de 1900, mettons, jusqu'à 1960, elle était plutôt... Il y a eu quelques trucs qui ont été écrits, mais c'est plutôt des romans du terroir, tu vois, des gens qui vont écrire sur la façon dont vivaient les Québécois des années 30, 40, 50. Et dans les années 60, il y a vraiment eu une espèce d'explosion de volonté de décrire le pays, et je dis le pays entre guillemets parce que c'est pas tout à fait un pays vraiment, là, le Québec, c'est une province dans le Canada, et ce qui se manifestait le plus chez les auteurs, c'était la question linguistique. C'était vraiment une bataille de tous les jours. La norme était d'écrire de la même manière que les Français. On parle la même langue, on écrit la même langue. Sauf que lorsque venait le temps de d'écrire du dialogue, par exemple, la façon de parler des Québécois, et principalement des Québécois de classe sociale pauvre, avait des manières de s'exprimer qui n'étaient vraiment pas académiques. Donc, la volonté a été tout d'un coup de transcrire cette oralité-là dans la littérature. Il y en a eu dans tous les sens. Il y a des choses qui ont été exagérées, d'autres qui ont été assez intéressantes, mais ça a créé une espèce de vague de fond d'identification de la littérature québécoise par la transcription de l'oralité. Jusqu'à tout récemment, moi, j'étais plutôt fervent de ça. J'aimais ça, cette idée d'écrire, de transcrire l'oralité. Sauf que là, comme tout mouvement identitaire, des fois, il y a des dérives. En ce moment, moi, je pense qu'il y a une grosse dérive au Québec, qu'on est dans une dérive identitaire très nationaliste et qui pue et qui se referme sur elle-même. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, au départ, la littérature, ça n'a pas de pays. Ça a des langues, mais il y a aussi le fait que le français a été inventé quand même, l'édit de Villers-Cotterêts, c'était pour que tous les francophones, tous les Français puissent se comprendre. Il y avait tellement de patois partout dans la francophonie. L'idée de créer une langue commune, c'était pour que tout le monde puisse se comprendre. Lorsqu'on parle des Haïtiens, par exemple, qui sont des francophones, ben, entre eux, ils ne se parlent pas français. Entre eux, ils parlent créole. Ils ont une langue de communication. C'est entre eux. Et si tu vas souvent en Haïti, comme ça m'est arrivé moi, dans les années 2000 jusqu'à 2013-14, si ça fait plusieurs fois que tu vas en Haïti, à un moment donné, ils vont s'attendre à ce que tu comprennes au moins le créole. Ça m'est arrivé dans une conversation, moi, de gens qui disent « Ah, mais on devrait parler français, il y a Michel qui est avec nous. » Et quelqu'un qui répond « Michel est allé en Haïti 5-6 fois. S'il ne comprend pas, tant pis pour lui. » C'était assez radical, c'était vraiment fort. Mais dans l'écriture, même s'il y a des auteurs haïtiens qui vont écrire en créole, la plupart des écrivains haïtiens écrivent en français. Ils vont insérer des petits morceaux de créole dans leur livre, mais c'est du français. S'ils veulent être lus par les Français, ils n'ont pas le choix. Si je te fais lire des livres en créole, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est les mêmes équations, et ce ne sont pas des questions qui sont faciles à cerner. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le but de l'écriture, c'est quand même d'être compris. Hein, par le plus grand nombre. En même temps, quand je dis ça, je me dis « Ouais, mais à ce compte-là, on devrait tous écrire en anglais. » C'est hyper complexe comme question, c'est assez délicat. Mais il reste pour moi que l'oralité est au cœur de la littérature québécoise contemporaine. Et l'autre truc qui est très important de dire, et je vais le dire très vite, c'est qu'au niveau des influences littéraires, il n'y a pas que la France au Québec. La littérature américaine est aussi extrêmement importante dans le développement des cultures ou de la pas que de la littérature, hein, des cultures en général, les Américains ont une grosse influence sur les Québécois en général, même si la plupart des Québécois vont nier ce que je dis là. Au niveau de la littérature, il y a des influences autant américaines que françaises. Un des exemples de ça, c'est, j'en donne qu'un, il y en a plein, c'est la poésie narrative. C'est-à-dire la poésie, comme on disait tout à l'heure, d'un des projets qu'on a pour l'automne, la poésie qui raconte une histoire. En France, il y a des auteurs qui l'ont fait, des auteurs qui le font. Le plus grand, c'est Prévert. Hein, Prévert nous raconte des histoires lorsqu'il nous fait des poèmes. Et aux États-Unis, c'est presque tous. C'est presque tous les auteurs. Ça commence avec Walt Whitman à la fin du 19e siècle qui nous raconte ses voyages. Ça s'appelle « Song of the Open Road », la chanson de la route ouverte. Il nous raconte ses voyages, il se promène, puis il nous raconte... Henri David Thoreau, même chose, il y a un livre qui est magnifique qui s'appelle « Un Yankee au Canada ». Il raconte un voyage au Canada, mais c'est de la poésie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important dans la poésie québécoise. Et c'est quelque chose que nous, de la poésie québécoise, on aime beaucoup. Cette manière que certains poètes ont de nous raconter la vie de tous les jours en nous racontant des petites histoires. T'es-tu d'accord, Pauline?
J'ai l'impression que le Québec, du fait de son histoire, pour volonté, et c'est peut-être un besoin même, je sais pas, je parlerai pas pour les Québécois, surtout pas, d'affirmer son identité, ses spécificités identitaires, et comme disait Michel, ça peut aussi amener à des dérives qui sont vraiment pas fun. Tandis que la France, fondamentalement, est construite sur l'immigration. Il y a des grands mouvements comme... Moi, j'adore le surréalisme, qui est quasiment entièrement construit par des immigrés, en fait. Au début du XXe siècle, il y a eu énormément d'immigrations diverses et variées, et qui ont boosté la culture française,
oui.
Tant dans la peinture que le cinéma, que la poésie, le roman, et c'est extrêmement riche, et depuis, on est encore sur cet héritage-là, qui est finalement assez récent, hein.
Ouais, un siècle.
Et qui est hyper important. Et donc, je pense que cette question identitaire, quelque part, elle s'est dissoute parce qu'elle s'est résolue, je dis ça comme si c'était une concession, mais c'en est pas une, à absorber les cultures qui lui venaient. Et ça, j'ai l'impression que le Québec, il n'en est pas là, parce que dans son histoire... Enfin, quand je dis il n'en est pas là, c'est pas comme si c'était des arriérés, loin de là, quoi. C'est que c'est pas du tout des histoires comparables, et du coup, c'est des états... Des états de fait qui sont très différents. Et voilà. Voilà, ça c'est nos deux spectacles, donc La Brèche et Mémoire amère.
Okay.
Et ensuite, tiens, je te laisse regarder ce que tu veux lire. Ça c'est les deux romans, donc La musique des ombres et Un perroquet sur l'épaule. C'est moi qui fais les dessins de couverture. C'est une espèce, c'est une des signatures aussi du Buvard. Et ensuite, on a les... Ça par exemple c'est un recueil de poèmes auquel on a participé parce que... Dans la collection In Situ, il arrive aussi qu'on participe au recueil de poèmes collectif. Donc ça, c'est Chaud l'été. Et dans la collection Trace et plat, on a ces deux-là. Donc Le Bon Plan et Alma Mater Dolorosa. Voilà, donc ils sont en couverture craft et papier blanc, tandis que les autres, c'est du gris perle.
Ça devait être sympa à percer le Mater Dolorosa. Hein.
Oui, oui, lui c'était un gros morceau et comme on est en mode DIY, c'est mon papa qui a fait cette merveille. Donc là c'est une espèce de tiroir coulissant qu'on fixe à la perceuse à colonne qui nous permet d'avoir un gabarit pour percer de manière très régulière pour faire des jolis trous. Parce que quand on le faisait à la main, pour cela là, c'était très compliqué de garder le forêt droit du début à la fin du perçage et de faire quelque chose de propre. Et voilà, et on est soucieux de l'esthétique de nos livres, parce qu'on en est très contents.
Mais ils sont très beaux.
Merci.
Donc je vais vous lire juste le début de Mémoire amère. Alors, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment comme un scénario. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tous les éléments techniques qui sont indiqués en didascalie, un peu comme une pièce de théâtre. Donc, je vous lis tout. 8 novembre 2019, CLAC. CLAC, c'est le Comité littérature et d'action culturelle, je crois, un truc dans le genre, à Mont-Joli, au Québec. Soir de première. Entrée publique. La musique. Loop tribal. Ambiance lumière. VV plus Hôtel Payen plus Expo Pauline. Showtime. Salle à 50%, salle noire plus son à zéro. Vidéo. L'oracle marche en forêt. Il pose les VV sur son passage. Le texte. Les uns, les autres, équilibre. Les uns, les autres, déséquilibre. Nature voyante, être vivant, être mort. Apocalypse annoncée, grande douleur dénoncée. Voir le futur, entendre l'avenir, palper l'après, sentir l'ultime. Nature voyante, être vivant, être mort, les uns et les autres, équilibre, les uns, les autres, déséquilibre. Musique, loop, tribal, hop. Section 1, segment 1. Etc., etc., etc. Et ça va comme ça pendant 45 minutes.
Oui, parce que ce que tu lis, les didascalies, c'est vraiment ce qui se passe. Ça, c'est pas du texte qui est lu
non,
sur scène.
Non, c'est vraiment les... par exemple, quand c'est indiqué vidéo, ben, c'est ce qui se passe sur l'écran. Il y a des vagues ou un ressac ou une chute d'eau. En musique, un rythme tribal. Et là, après, il y a le texte. Défaire le temps, construire les mémoires. Être au-delà du réel et du rêve. Les morceler, les triturer, les arranger. Le temps, la mémoire, morceler, triturer, arranger. Le réel, le rêve, morceler, triturer, arranger.
Ça, c'est des choses que vous avez écrites en amont, du coup.
Ouais.
Donc, tout est quand même... Il n'y a pas vraiment d'improvisation, c'est pas de ça dont il s'agit.
Non, c'est un autre spectacle qu'on fait, en plus de ces deux-là qu'on a composés nous-mêmes et qui se tiennent vraiment d'un bout à l'autre, pendant 45-50 minutes. On a une troisième formule qui est ce qu'on appelle les soirées loupées, avec deux os, où là, nous, on fait de l'animation littéraire. Et on invite des auteurs à lire leurs textes sur scène avec nous. Et nous, on est là juste pour les accompagner, puis pour porter leurs textes. Donc là, je fais des improvisations à la basse. Michel pose des rythmiques avec des machines électroniques. Et parfois, tu sors ta trompette ou...
Ouais, puis il y a aussi... je me sers beaucoup de ma voix aussi. On a une loupeuse, d'où le nom « Soirée loupée ». C'est une machine qui fait des boucles. Donc, je vais construire des rythmes souvent à partir de ma voix où je vais faire sur une loupe, mettons, je ne sais pas, une basse. Boum, 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 je la loupe. Après, je peux faire un cri qui est loupé aussi. Donc, ça construit une base rythmique. Et là-dessus, Pauline improvise à la basse ou à la guitare, dépendant de son inspiration.
Mais généralement, c'est à la basse.
Généralement, à la basse, oui. Et là, on invite les auteurs qui viennent lire pendant les soirées loupées, nous, on ne prépare jamais rien. On est en full improvisation. Et puis, on se permet une grande liberté sur scène. C'est-à-dire qu'on balance nos rythmes, on balance nos loops. Des fois, Pauline ne sera pas à l'aise avec une rythmique que j'ai lancée, puis elle arrête de jouer, mais regarde, non, pas celle-là. Donc, on éteint tout, on repart, on recommence, on en fait une autre. Quand on est confortable... Ben là, on invite un auteur. On dit, bon, OK, il y a des auteurs dans la salle. Mettons, je sais pas.
On a monté l'affiche avant.
Oui.
Il y a 5 ou 6 auteurs qui sont prévenus. Hein. On les appelle au moins un mois avant en les invitant. Et puis, s'ils acceptent, c'est génial. Et c'est rigolo, comme nous, on est super détendus alors qu'on est en full impro et qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer et qu'eux, ils tiennent leurs feuilles en tremblant parce qu'ils sont super stressés de lire leurs textes devant du public. Et c'est chouette.
Et sur des musiques qu'ils ne connaissent pas.
Ouais.
Ils embarquent dans une ambiance musicale qu'ils n'ont jamais entendue puisqu'elle est complètement improvisée. Et puis des fois, on va tenir 2-3 lecteurs sur les mêmes bases. D'autres fois, on change de base complètement entre deux morceaux, entre deux lectures. On avance là-dedans, puis moi je dis n'importe quoi. Et puis quand je dis trop n'importe quoi, Pauline me bouscule un peu pour que je change de... C'est presque du clown, tu sais, c'est presque le clown blanc et le...
Généralement, on rigole bien,
ouais. Et on essaie encore une fois, ça rentre dans la même logique d'accessibilité à la poésie, d'essayer de rendre ça fun. Il n'y a aucune raison que ça soit morose, la poésie, que c'est ça, ça, à nos yeux, à nous, au contraire, ça doit être fun. Mm. On rigole, même si des textes, des fois, des auteurs qui viennent lire peuvent être assez, assez deep, assez profonds. Nous, entre les morceaux, on dit vraiment n'importe quoi. On fait n'importe quoi.
On fait l'animation.
Ouais, c'est ça.
Financièrement, est-ce que vous...
Non.
On passe à autre chose.
Non, 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 on peut en parler, c'est sûr
on
que...
On n'est pas salarié.
Non.
Tout ça, c'est du travail bénévole qui nous prend un temps pas possible. On travaille tous les jours, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas pris un week-end. Mm-hmm. On travaille vraiment beaucoup, on se lève tôt le matin et puis on a des grandes journées. Mais jusque-là, c'est la passion qui nous nourrit.
Et puis les quelques ventes qu'on arrive à faire nous permettent de quand même manger un peu.
Ça sert surtout à financer la production des prochains livres.
Ouais.
Parce que,
et des déplacements. Et des...
Ça a l'air de rien comme ça, mais ça coûte très très cher en fait de produire des livres. Et voilà.
Et puis encore une fois, année Covid oblige, on n'a pas pu sortir beaucoup, hein. Je veux dire, les marchés, tout le premier confinement, on était dans la maison, on ne pouvait rien faire. L'été dernier, on a pu sortir un peu, on a fait quelques trucs, on était au marché de Cancale, entre autres, où, bon, on fait un peu de vente, hein. Ça va à Bécherel, ça marche plutôt bien pour nous, on arrive à rentrer un peu de sous, mais c'est loin, très très loin encore de ce qu'on aurait besoin pour éventuellement se salarier. On n'y est pas encore.
Bah, tiens, peut-être petit moment capitaliste de l'émission, mais si on veut, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui sont curieux et qui ont peut-être envie de soutenir votre démarche, c'est quoi les prochains rendez-vous, hein?
Le prochain rendez-vous, c'est à Bécherel, les 4 et 5 avril. Après ça, on va être à Bordeaux le 17 avril à la librairie La Mauvaise Réputation. Après ça, on va être à Bécherel encore les premiers 2 mai, je crois, là, le dimanche, lundi là, du premier week-end de mai. Et pour l'instant, c'est ça.
Ouais. C'est difficile de prévoir plus loin parce que là, par exemple, on cherche des marchés d'été. Il y a pas mal de marchés nocturnes sur les côtes bretonnes. Et les mairies qu'on a contactées n'ont pas encore pris de décision. Elles attendent les ordres, entre guillemets, gouvernementaux pour pouvoir s'organiser. Et puis, on avisera à ce moment-là.
Et c'est quoi l'endroit pour trouver les informations, justement, pour savoir ce que vous devenez?
Nous, on...
Il y a 3 trucs. Hein.
On s'exprime surtout sur Facebook et Instagram, pour ce qui est des actualités. Et après, un bon moyen de bien connaître Le Buvard, c'est d'aller sur notre site, www.lebuvard.ca. Et puis là, on peut voir tous nos livres, les affiches, et puis on peut même commander.
Et puis là, bientôt, il y a la série de t-shirts qui vont arriver aussi... qui vont aussi être sur le site, disponibles sur le site. Donc, on fait de la VPC, la vente par correspondance, via le site. C'est pas encore tout à fait ça encore, mais ça existe. C'est là. C'est,
oui, c'est pas populaire, mais ça marche très bien.
Ça marche bien, oui. Ça marche bien.
OK. Juste, moi, j'ai un petit... j'aimerais bien décrire plus le lieu, mais je peux le faire aussi. Et, par exemple, le fait qu'il y ait cette fenêtre, là, je me dis... que je sais pas si ça vous... C'est important, cette fenêtre, dans cet espace-là.
Ah, pour Michel, ou... oui. Là, c'est l'espace de travail de Michel.
Ah, OK.
Et quand on a aménagé cette pièce, c'était très important pour Michel d'être face au jardin. Et donc, cette fenêtre qui donne sur le grand jardin lui va ravir.
Oui.
Surtout quand il voit notre petit chien, parce qu'on a un petit chien qui a 7 mois et demi, et qui est bourré d'énergie, qui est très foufou, qui passe énormément de temps à courir après les papillons dans le jardin. Et du coup, ça offre une perspective très agréable.
Ouais. Puis quand il veut rentrer, il monte sur le linteau de la fenêtre, et ça veut dire qu'il veut rentrer.
OK. Donc, il y a un troisième co-éditeur.
C'est notre mascotte.
Ouais.
Otto.
Qui nous suit sur tous les marchés où on va, d'ailleurs.
Ah bon?
Ouais.
Ah oui, il est avec nous tout le temps.
Ouais. Tout le temps.
Trop bien.
Merci.
Eh bien, merci à vous.
Voilà, c'était donc Michel et Pauline des éditions Le Buvard. Merci encore à LE de nous avoir ouvert leurs portes. On espère que cette rencontre partagée vous aura plu. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de J'irai cracher sur vos ondes sur Radio Syllabes.